aujourd'hui, on va ici au Québec, on va jaser un peu.
D'accord. Hein.
Qu'est-ce que vous faites encore dans. Qu'est-ce qui vous amène encore dans ce coin de pays?
J'ai eu la chance d'être invitée par le Festival Mondial Montréal, mm-hmm. qui est un festival de musique ouvert sur le monde. Et donc, j'étais invitée pour y prendre part, en particulier pour animer un panel. Mm-hmm. Et donc, pour moi, c'était l'occasion de découvrir aussi des réalités locales, mm-hmm. voilà, québécoises.
Mm-hmm. Même si ce n'est pas la première fois, quand même.
Ce n'est pas la première fois, mm-hmm. mais ça fait longtemps que je n'étais pas venue.
Dernière fois, c'est 2015, non?
Oui, c'est exactement. Ouais, ouais. J'étais restée vraiment très peu de temps. Mm-hmm. Du coup, j'étais venue pour une conférence sur l'islamophobie. Mm-hmm. Et effectivement, c'était vraiment très très court. J'avais dû rentrer parce que je tournais un documentaire à Paris. Mm-hmm. Du coup, j'étais restée de manière assez courte. Donc là, j'ai quand même plus de temps de découvrir, de rencontrer des gens qui sont acteurs sur le terrain, des artistes, etc. Donc voilà.
Mm-hmm. Le panel portait sur quoi?
C'était sur des festivals en fait, qui avaient émergé dans différents contextes culturels de rien. En fait. Vraiment de contextes qui n'étaient pas forcément simples. Donc à Brasilia, en Caroline du Nord et à London, Ontario. Et des festivals qui avaient pour mission de donner la voix à des populations qui étaient un peu minorées. Et du coup, c'était des expériences individuelles. Super intéressante de réussite, mais dans l'adversité. Et en plus des festivals qui avaient vraiment en eux un engagement très fort, à la fois de programmer des artistes éclectiques, mais aussi dans leur composition, de faire en sorte que les personnes du festival soient le reflet de cette philosophie. Mm-hmm. Donc c'était super riche. C'était vraiment une belle conversation entre personnes qui ne se connaissaient pas, mais qui avaient beaucoup, beaucoup de choses à échanger.
Mm-hmm. Et justement, j'en profite parce que j'essaye d'imaginer. Quelqu'un à qui on va demander de réécrire la bio de Rokhaya, il vous met dans quelle catégorie?
Est-ce qu'il est obligé de me mettre dans une catégorie?
Voilà, c'est une réponse. Parce que là, on parle artiste pour un festival, mais évidemment, vous êtes éditorialiste, vous êtes chroniqueuse, vous êtes journaliste, vous êtes documentariste. Là, je sais que vous avez touché un tout petit peu, on va en parler, la dramaturgie, mise en scène. Qu'est-ce que vous ne faites pas?
En tout cas, j'aime.
Dans les métiers publics, hein,
je fais plein de choses. Après, ce qui est commun quand même à toutes mes activités, c'est que j'écris. Mm-hmm. De manière générale, j'écris des films, j'écris des chroniques, j'écris des livres, j'ai écrit une bande dessinée, enfin le scénario, effectivement, ce spectacle dont on va parler. Après, j'ai fait des choses un petit peu différentes avec l'exposition qui a été dérivée du livre Afro.
Ok,
en fait,
oui. Mm-hmm.
Avec Brigitte Soulier. Mm-hmm. Mais moi, j'aime bien les défis, j'aime bien avoir la possibilité de permettre à ce qui m'intéresse de s'exprimer. C'est vrai que même moi, comme personne, je suis très avide de culture. Et d'avoir la possibilité de mettre une touche personnelle en créant des choses, en produisant des choses pour différents supports, ça m'intéresse. Donc s'il faut moi, pour me décrire comme ça dans le CV, je dis que je suis journaliste et réalisatrice. Après, c'est vrai que ça implique tellement de choses différentes que je ne sais pas si je me définirais toujours comme ça.
Qu'est-ce qui vous fait dire oui à un projet? Que ce soit d'écriture ou de...
Déjà, j'ai tendance... C'est vrai que souvent, on se limite parce qu'on imagine que nos capacités sont restreintes. Et quand je vois que quelqu'un croit en moi, j'ai tendance à le croire. Je me dis que s'il n'y a pas de raison qu'une personne croit plus en moi que moi-même. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup guidée. Et après, j'ai eu des doutes en ce spectacle. J'ai mis des années avant de m'asseoir et de me dire, voilà, je vais raconter cette histoire-là. Mais ce qui me motive, c'est le fait de me mettre à la place des gens qui vont pouvoir découvrir ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'aime la scène, enfin j'aime les spectacles sur scène, j'aime les livres, j'aime les documentaires, et donc de me dire que je peux contribuer à nourrir un peu ces champs artistiques-là en apportant ma pierre, ça me motive. Mais c'est aussi l'envie de dire des choses et l'envie de raconter des histoires qui me motivent aussi.
Quand vous dites, parce que cette question m'intéresse, parce que quand vous dites dans le livre, par exemple, « Ne reste pas à ta place », quelle est la place de Rokhaya où elle ne veut pas rester, ou aux autres à qui elle dit « Ne reste pas à ta place », c'est quelle place?
Ce que je dis, c'est surtout qu'il ne faut pas rester, quand on a la possibilité, bien sûr, à la place qui nous est assignée. Ce que je raconte, c'est un peu, dans ce livre, ma trajectoire personnelle, où je dis que je suis aujourd'hui à une place que la sociologie, en tout cas, n'aurait pas pu anticiper. Dans le sens où je suis une fille d'immigrés qui sont venues du Sénégal, qui sont sous classe populaire, donc qui sont venues en France, qui sont allées en France, en l'occurrence, puisqu'on n'y est pas, pour vraiment nourrir la classe ouvrière. Et qu'aujourd'hui, je suis journaliste, réalisatrice, et je travaille pour des grands médias, et les journalistes français, ils sont quand même plutôt issus des classes moyennes, des classes supérieures, et c'est une profession qui est considérée comme une profession intellectuelle supérieure. Donc a priori, à ma naissance, on n'aurait pas pu imaginer que je serais parmi les éditorialistes qui s'expriment dans les médias français. Donc en ça, je ne suis pas restée à cette place qu'on aurait pu prédire à ma naissance. Et c'est ça que je voulais raconter, c'est un petit peu aussi les principes que j'ai tiré de cette trajectoire, parce que évidemment ça n'est pas allé de soi, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments des échecs, il y a eu des erreurs, des moments aussi évidemment plus positifs, et c'est tout ça que je voulais raconter par rapport à la place. Et l'idée, c'était de dire aux gens, il ne faut pas se restreindre et s'astreindre d'une certaine manière à ce que d'autres peuvent, aux anticipations que d'autres peuvent avoir pour nous-mêmes.
Mmh. Vous avez dit que vous êtes journaliste, réalisatrice, du moins voilà comment vous présentez de manière rapide et simple. Si je vous dis, si j'ajoute activiste, vous le prenez comment ?
Moi, je le prends bien parce que je suis quelqu'un d'engagé. Mmh. Moi, c'est vrai que j'ai souvent, avec l'étiquette que soit militante ou activiste, je n'aime pas quand elle définit les gens de manière réductrice. C'est-à-dire que moi, quand on me présente simplement comme une militante ou comme une activiste, je sais que c'est souvent de manière malveillante, c'est pas toujours le cas, et c'est pas un métier. C'est-à-dire que je suis engagée, mais je ne suis pas plus militante que certains journalistes d'extrême droite. J'ai un engagement, effectivement, il y a une coloration dans mon travail, mais quand on dit que quelqu'un est un militant sans qualifier sa profession, c'est comme si le travail que je faisais n'était pas du travail, il n'était que de l'idéologie qui était nourrie par des émotions. Or, je travaille, je produis un travail qui est un travail engagé. Il y a des journalistes engagés. Ici au Canada, il y a quelqu'un comme Naomi Klein, qui est une journaliste, qui travaille, qui fait de l'investigation, mais qui est aussi altermondialiste. Et je pense que si on ne dit pas, quand on me décrit que je suis aussi, que j'ai une profession, au-delà de mon militantisme, je trouve que c'est réducteur.
À quel moment dans votre parcours, on vous a déjà posé la question sûrement, mais à quel moment dans votre parcours le militantisme surgit ou l'engagement surgit ?
Assez tardivement. En fait, j'ai eu plusieurs déclics. J'ai eu un premier déclic, on va dire, altermondialiste, lorsque j'ai lu Aminata Traoré quand j'avais 20 ans, quand elle a écrit Les Taux, qui parlait de la dette du continent africain, qui était impossible à rembourser parce qu'elle était inique, en réalité, et en lisant aussi Nos Logos en 2000 de Naomi Klein. Et c'est vraiment, ça a été des déclics, et là, j'ai commencé à m'engager dans l'altermondialisme à attaque. Et sans faire le lien avec mes origines africaines, en tout cas consciemment. Je pense que ça avait un lien, mais que je ne l'ai pas formulé à ce moment-là. J'ai eu aussi un engagement féministe très tôt, donc pour plein de raisons, j'ai vraiment voulu m'engager dans des collectifs féministes. Et finalement, l'antiraciste est arrivé très très tard. Très tard, au milieu des années 2000, du fait de plusieurs actualités qui m'ont choquée, l'une d'entre elles étant la mort de Ziad Ben Abdel Traoré. À Clichy-sous-Bois, deux jeunes garçons qui sont morts en étant poursuivis par la police alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher, des adolescents de 15 et 17 ans, et ça a donné lieu à vraiment un embrasement des quartiers populaires français, d'abord à Clichy-sous-Bois, puis partout en France. Et le traitement médiatique de cette affaire et l'absence d'empathie pour la famille de ses enfants m'a beaucoup choquée, et je pense que ça a été vraiment déterminant dans mon engagement antiraciste, parce que les deux garçons étaient d'origine malienne et d'origine tunisienne. Et voilà, et j'ai voulu prendre la parole, ou en tout cas restituer la parole, la reprendre, puisqu'on parlait pour nous. Je considère que je faisais partie de ce « nous » dont étaient issus Ziad Ben Abdel Traoré. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire des choses et de monter mon collectif Les Indivisibles. Et puis après, à titre personnel, je suis née en France, j'ai toujours vécu à Paris. On m'a beaucoup posé la question d'où je venais. Et j'ai aucun problème avec mes origines, hein. Mes origines sont au Sénégal, mais je ne suis jamais venue en France puisque je suis née. Et donc cette idée de la provenance et du mouvement qui est systématiquement associé aux personnes qui ne sont pas blanches, elle me dérange. Je suis aussi française que n'importe quel Français, quelle que soit sa couleur, et j'ai senti que j'avais besoin de me justifier beaucoup, beaucoup trop souvent, et c'est comme ça que j'ai voulu m'engager aussi. Mmh.
Justement, je parle à la française. J'ai vécu 2002, j'étais là-bas. Comparé à 2019, vous savez, 2002, je fais allusion à l'élection présidentielle. Okay, maintenant, on est en 2019. Là, je ne parle pas d'un candidat, mais je vois l'évolution de la société et d'un certain type de discours, notamment celui de l'extrême droite. Cette évolution-là, cette banalisation vient d'où? D'après votre regard,
il y a une évolution déjà entre 2002 et 2017 qui est spectaculaire. C'est que le nombre d'électeurs du Front National, c'était le Front National encore en 2017, a doublé. Mm-hmm. On est passé de 5 millions, je crois, à 11 millions en 2017. Donc il y a vraiment une normalisation de ce vote qui est spectaculaire et qui est liée pour moi à plusieurs choses, notamment parce que certains nombre de politiques se sont emparés de ce discours-là. pour le banaliser, en 2002, Nicolas Sarkozy a été nommé ministre de l'Intérieur et c'est quelqu'un qui a vraiment favorisé l'installation des idées d'extrême droite dans le discours public. Et d'ailleurs, en 2007, quand il a été élu, le Front National n'a fait que 10%. Parce que les électeurs du Front National se sont retrouvés dans ce qu'ils défendaient. Et donc, il a installé ce climat avec ce débat sur l'identité nationale, cette récurrence de la question de l'islam, cette hostilité par rapport aux migrants qui, aujourd'hui, a contaminé tous les partis politiques. Il est très difficile de trouver un parti où il n'y a pas des éléments qui sont perméables à ces idées-là. Et je pense que c'est ce qui se joue aujourd'hui, cette manière dont on dévoile le principe de laïcité pour en faire un principe oppressif, alors que c'est un principe d'égalité et d'émancipation. C'est, pour moi, tout ça, c'est aussi effectivement l'installation des idées d'extrême droite.
Il y a un trait dans votre, du moins un aspect de votre combat ou de votre militantisme, c'est le côté féministe. Aujourd'hui, en France, bon, on a connu le mouvement MeToo qui est arrivé et tout, qui a déferlé un peu partout. Mais quand on ouvre les médias ou qu'on lit les médias français, ce qui apparaît, c'est uniquement cette espèce d'atmosphère à la limite islamophobe, tellement on en parle. La militante que vous êtes, féministe, en même temps, comment elle se situe là? Est-ce qu'elle n'a pas une frustration, par exemple, par rapport au combat féministe, qui est plutôt peut-être la première des...
Bah, disons que, en tant que féministe, sur la question de l'islamophobie, j'ai un problème parce que cette question elle se concentre essentiellement sur le corps des femmes. C'est-à-dire qu'on nous parle en permanence du fait que des femmes portent un foulard ou ne portent pas de foulard. Et en fait, les hommes musulmans, finalement, dans ce contexte-là, ils ne sont pas questionnés de la même manière. Et en tant que féministe, je considère que chaque femme peut disposer de son corps et que bah, finalement, si une femme musulmane décide de se couvrir, c'est son choix individuel. Et le fait que le débat public ne cesse de commenter les tenues de femmes, pour moi, c'est une régression féministe. Après, je pense qu'il y a des choses qui bougent. On a quand même des traumatismes avant le mouvement MeToo en France, notamment l'affaire de Neil Strauss-Kahn en 2011, où on a des collectifs féministes qui ont un peu repris de la visibilité à l'époque parce qu'on a commencé à parler de violences sexistes, même s'il y avait toujours ces doutes par rapport à la crédibilité des victimes. Et la France vit le mouvement MeToo à son rythme, c'est-à-dire qu'il y a un rejet d'une partie de l'élite lorsque le mouvement MeToo est apparu, notamment avec cette tribune de 100 femmes qui vantaient, dont Catherine Deneuve, Catherine Millet, etc., qui vantaient la liberté d'importuner dans le métro.
Je doute que
Catherine Deneuve prenne le métro souvent, mais bon, voilà, c'est une opinion évidemment que je combats. Mais là, en ce moment, il se passe quelque chose avec Adèle Haenel, l'actrice qui a parlé des violences sexistes dont elle avait été victime quand elle avait 13 ans, avec toute la question qui se pose aujourd'hui autour de la complaisance qu'on a pu avoir à l'égard de quelqu'un comme Roman Polanski, et puis des gens qui se dévoilent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'entends des gens qui sont les intellectuels qui questionnent la maturité d'une enfant de 13 ans, cet enfant qui a été violé, drogué, alcoolisé par Roman Polanski, où j'entends des gens, des philosophes dire oui, mais à 13 ans, elle avait déjà un petit ami. Donc les masques tombent et je trouve que même si cette façon de penser est abjecte, elle nous permet de déterminer vraiment qui sont les adversaires du féminisme. Et puis il y a une marche qui s'appelle Nous Toutes, qui a eu lieu à Paris le 23 novembre et qui mobilise très très largement. Et ça, c'est pour moi, et qui mobilise aussi de très jeunes femmes. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui a un regain. Et je pense que la France vit les choses avec ses propres réalités et qu'on n'est pas obligé de, finalement, d'avoir un MeToo qui s'exprime de manière coordonnée, simultanée partout dans le monde.
Je ne peux ne pas vous poser la question par rapport au Québec, qui est un peu pour nous, on est ici, on voit la France, il y a une histoire. Aujourd'hui, vous voyez un peu, vous connaissez un peu les deux sociétés, peut-être moins le Québec. Est-ce que vous faites des parallèles? Est-ce que vous voyez des parallèles dans certaines choses dont on parle?
Je vois qu'il y a des débats français qui ont l'air de s'exporter, et ici, en tout cas de s'importer, je sais plus de quel point de vue je parle, mais en tout cas, je vois qu'il y a des débats français que parfois on réadapte ici au Québec, mais parce que je pense que le Québec a une position particulière au Canada, et du coup c'est une population qui linguistiquement est minoritaire, et qui a besoin de s'affirmer culturellement, et qui parfois peut-être le fait en essayant de copier des choses françaises qui, à mon avis, ne sont pas nécessairement pertinentes dans le contexte canadien. Mais je vois qu'il y a des choses qui arrivent de France qui ne sont pas toujours heureuses. Et qu'il y a des débats aussi qu'on peut entendre un peu apocalyptiques sur, notamment je sais qu'ici il y a beaucoup de débats sur l'appropriation culturelle, mm-hmm. et qu'en France c'est quelque chose qui fait l'objet d'une grande hostilité, et que souvent on nous présente le Canada comme le risque qu'on encourt en France, où on dit oh mon Dieu, regardez les Canadiens, les pauvres, ils n'ont plus liberté artistique, il faut qu'on se protège de ça. Et ça c'est intéressant, et je trouve que ça veut dire qu'il y a une dynamique de dialogue qui doit s'instaurer entre les personnes qui sont actives et activistes, hein, mm-hmm. on peut employer le terme, des deux côtés de l'Atlantique. Pour réfléchir ensemble. Et je pense que le Québec, en cette position-là, qu'il y a des voix réactionnaires qui s'expriment, mais qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de dynamisme du côté des progressistes.
Si vous permettez, on va terminer avec des questions un peu plus sur vous. Je vous suis, évidemment, à travers les médias, et je dis, mais comment elle fait pour ne pas s'énerver, pour ne pas, excusez-moi l'expression, mais péter une coche quand je vois la télé? Comment vous faites? Comment vous absorbez tout ça? Comment vous gérez ça avec votre vie personnelle pour pas... parce que vous avez l'air d'être, je dis bien l'air, hein, d'être partout. C'est pas, je dis pas comme
c'est
reproche.
Marrant parce que je fais attention pourtant à mes interventions et j'en refuse beaucoup. Je choisis vraiment méticuleusement chacune de mes interventions. Après, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas toujours agréable et ce n'est pas toujours facile. Il y a eu des moments, et j'en parle dans le livre « Ne reste pas à ta place » que vous avez cité, où ça a été très compliqué, où je me suis beaucoup interrogée sur la justification de ma présence, sur ce que je pouvais recevoir en termes de haine, de violence et de menaces. Aujourd'hui, je suis plus sereine par rapport à ça pour plein de raisons, parce qu'il y a plein de choses que je comprends dans l'expression de la haine, telle qu'elle s'exprime notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi par des détracteurs politiques dont j'entends parler de moi de manière un petit peu impromptue, surprenante parfois. C'est que je pense qu'on s'en prend davantage à un personnage qu'à une personne. C'est-à-dire que je me rends bien compte que dans ma vie réelle, les gens qui me connaissent ne m'insultent pas. Même quand on n'est pas d'accord, en fait, on a des dialogues civilisés. Et donc, c'est ce qui me permet de comprendre que, en fait, c'est davantage une figure fabriquée qui fait l'objet d'hostilité, vraiment de colère, que moi, la personne. Moi, en fait, dans ma vie, je ne suis pas ce personnage médiatique. Je suis quelqu'un qui a une famille, qui a des amis, qui a des activités, qui va au cinéma, au théâtre et qui fait du sport. Enfin, du coup, c'est vrai que la dissociation entre cette vie publique et ma vie personnelle, qui est très très différente, ça me permet quand même de souffler un petit peu. Puis après, la chance que j'ai, c'est que je voyage énormément. Donc j'arrive aussi à relativiser ce qui se passe en France. La population française, c'est moins de 1% de la population mondiale. Donc on a beau se prendre pour les rois du monde, quand on sort de France, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de gens que ça n'intéresse pas tant que ça. Donc ça permet aussi de redescendre un petit peu par rapport à l'importance qu'on peut donner à des débats très très locaux. Donc tout ça, ça m'aide énormément. Et puis après, le fait de se protéger, donc de ne pas systématiquement s'engager dans tous les débats, et de savoir aussi décliner, refuser, prendre du recul. Et après, vous parliez de ce que je fais, de mes activités. Il n'y a pas longtemps, j'ai créé un spectacle pour le Cabaret Sauvage, qui est une salle parisienne. Qui s'appelle Welcome à l'écoute. Voilà, pour la réouverture de cette salle qui est une très très belle salle à Paris. C'est un spectacle musical que j'ai écrit, donc le CHK qui a fait la musique. Sur scène, il était présent avec Awali, la chanteuse, mis en scène par Géraldine Benichou. Et c'est Méliane Azaïch qui m'a proposé le spectacle. Bah, créer un spectacle avec des musiciens, avec des gens qui font du cirque, du trapèze, du ruban, enfin voilà, des contorsionnistes. Franchement, ça sort un peu des polémiques. Tout d'un coup, on crée ensemble un objet artistique et qui donne du bonheur aux gens. Les gens sont allés voir le spectacle en famille et sont ressortis avec le sourire. Donc ça, pour moi, ça me permet vraiment de respirer.
Ça a été fait avec, oui, certes du plaisir, mais c'est facile à écrire ce spectacle.
Alors c'est surtout difficile de commencer. Méziane Ajaïch m'a demandé d'écrire quelque chose pour le Cabaret Sauvage depuis très longtemps et je n'arrivais pas à démarrer parce que je ne savais pas par où commencer. J'avais jamais écrit de spectacle surtout musical et c'était un cabaret qui voulait. Alors moi j'aime bien aller voir les cabarets, mais en écrire c'était autre chose. Et le déclencheur, c'est vraiment quand il m'a mis en lien avec HK, le chanteur, musicien, compositeur, et la metteuse en scène Géraldine Benichou. En fait, on s'est assis, on a discuté et j'ai commencé à avoir des idées, et en fait du coup j'ai fait ce que j'aimais bien faire aussi, j'ai inséré de la vidéo, j'ai écrit des scénettes, des dialogues, et en fait HK a cette grande qualité de pouvoir produire des mélodies et des chansons de manière très très juste, très talentueuse et très rapide aussi, hein, faut le dire. Et finalement ça a été très simple, Ça s'est très bien fait entre tous les artistes qui étaient présents.
Merci de votre générosité.
C'était un plaisir, merci à vous.